32, au début du verset 4, jusqu'à la fin du chapitre 36. Alors, il s'agit de beaucoup d'événements qui nous sont racontés par le récit de la Torah. Et en général, le sujet général du moins, ce sont les événements de la rencontre entre Jacob et Ésaü. Nous savons déjà par le récit précédent qu'il y a plus qu'une querelle, une rivalité entre Jacob et Ésaü, qui sont les deux fils d'Isaac, et chacun d'entre eux représente, du point de vue d'une typologie des récits bibliques, leur conflit représente un conflit de civilisation dont un des deux termes est Israël, puisque nous savons que c'est Jacob qui va donner l'Israël. Et plus précisément, l'objet de ce conflit, de cette rivalité, c'est qui sera nommé Israël. Nous aurons peut-être à revenir un peu en passant sur la définition des deux types humains, de Jacob et Ésaü, qui apparaissent comme deux frères jumeaux à l'intérieur des engendrements d'identité dans la famille d'Abraham. Et par conséquent, il y a une racine commune, et nous aurons essayé de comprendre à quel niveau on peut dire que Jacob et Ésaü sont frères. Le texte revient sur cette dénomination de Jacob et Ésaü comme frères, mais en réalité, ils sont rivaux dans l'histoire, d'abord dans l'histoire de la famille de Jacob, de la famille d'Abraham, rivaux avec pour objectif l'identité Israël, et puis cette rivalité, telle qu'elle nous est décrite au niveau de l'histoire des personnes, des personnages, cette rivalité, en fin de compte, s'est incarnée dans l'histoire des civilisations, et ça a été, en tout cas pour notre période, le conflit qu'il y a eu entre la civilisation occidentale, telle qu'elle a été dominée par la chrétienté, et que les commentateurs nomment dans l'équation Rome égale Édom, et puis Israël, tel qu'il a vécu dans l'exil pendant ces 2000 ans, l'exil de Jacob chez Ésaü, littéralement, et tel que finalement nous sommes en train de vivre les dernières péripéties de cette histoire. Et nous aurons à découvrir dans ce récit comment toute cette histoire est précisément préfigurée dans le récit de ces chapitres, et en particulier de la lutte entre Jacob et Ésaü. Donc vous voyez, ces termes Jacob et Ésaü signifient simultanément, d'une part, les personnes qui ont été à la racine, à l'origine de ces deux grands ensembles de civilisations, d'identité humaine en général, les enfants d'Isaac, et puis d'autre part, les deux génies culturels que cela représente, leur conflit et leur combat. Je vous rappelle simplement très brièvement que ces analyses, qui sont dans le sens de la parchamine traditionnelle, du commentaire traditionnel, ont pour principe de méthode une formule du Midrash qui a été reprise par les grands commentateurs du Moyen-Âge, et en particulier par Nachmanide, qui dans ses analyses nous sert de guide en général. C'est-à-dire ce principe que l'histoire des patriarches, et jusque dans le détail même des péripéties du récit biblique, est préfiguratif de l'histoire de leur descendance, c'est-à-dire de l'histoire des nations, des ethnies qui en sont issues. Cette formule du Midrash est très importante, et elle est citée d'ailleurs souvent par les commentateurs, mais comme je le disais, en particulier par Nachmanide, qui est un des plus grands d'entre eux, non seulement dans son introduction aux commentaires de la Bible, mais très souvent à propos de ces comparaisons. Puisque comparaison, ce sont des identifications qu'il nous invite à faire entre le texte et la manière dont il rend compte de ce qui s'est passé à l'origine de notre identité, et puis d'autre part les événements qu'en tant que société nous avons à vivre. Pendant longtemps, et bien on peut dire pendant des siècles, cette perspective de la lecture des textes et des événements et de leur confrontation réciproque a été plus ou moins, comment dire, inconsciente. Occulté, caché, satoum, occulte, oui, indéchiffrable. Et puis, les événements que nous vivons ont maintenant une telle densité que ce dévoilement ne peut pas ne pas devenir évident. Mais il faut savoir qu'à travers les siècles, c'était ces explications-là que l'on étudiait en étudiant le commentaire biblique. Ce principe, je vous le rappelle en hébreu, c'est « Kolma sheira la vot, siman la bani ». C'est-à-dire tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les enfants. Et les pères, c'est pas... si vous voulez, cela est vrai aussi au niveau de la psychologie élémentaire, que ce qui arrive aux enfants est en germe dans ce qui arrive chez le père. Et on sait maintenant de façon beaucoup plus claire qu'il y a une espèce de passage à travers et autour de l'hérédité, enfin, plus même de l'hérédité proprement dite, il y a un passage de l'identité psychique entre ce qu'a été l'expérience des pères et puis ce que sera le destin des enfants. Enfin, ce n'est pas tellement le sujet, mais je veux dire, au-delà de cette évidence de la culture contemporaine, qu'effectivement le destin des enfants est en germe dans les événements que vivent les pères. Vous comprenez, les parents, vous comprenez de quoi je fais allusion, non ? Mais au-delà de cela, il ne s'agit pas de n'importe quel père, ni non plus de n'importe quel enfant, dans cette formule. Kolma Sheirar Laavot Siman Lavanim, les banim dont il s'agit, c'est Israël, dont le verset dit Banim Atem Lachem Elokechem. Ce sont les enfants du Créateur lui-même. Et par conséquent, les Avot dont il s'agit, les pères dont il s'agit, les pères de ses enfants, les patriarches, comme nous disons, sont appelés dans le vocabulaire traditionnel Avot Haolam, les principes même de l'identité humaine, les pères du monde. Eh bien, et en particulier, et nous nous trouvons dans les récits de la Sidra de cette semaine, dans l'événement d'une rencontre entre Jacob et Ésaü, et qui, comme nous allons voir, a deux étapes. Une première étape où Jacob, qui revient à peine de l'exil de chez Laban, où il a été exilé à cause de la haine d'Ésaü, là ce sont les textes précédents, et donc Jacob, revenant de cet exil de chez Laban, dans une première étape, propose la réconciliation et la paix à Ésaü. Et ce sont les textes de la première partie de la Sidra. Et tout à l'heure, nous aurons à étudier un ou deux versets de cette première partie où nous voyons que la première chose que Jacob fera en rentrant de son exil de chez Laban, c'est d'envoyer des émissaires, si j'ose dire, chez Ésaü pour lui proposer la paix. Or, au lieu de recevoir comme réponse une réponse de réconciliation et de paix, Jacob doit se préparer à la guerre, à la lutte. Et il y a une lutte. Et c'est au terme de cette lutte que Jacob se trouvait nommé Israël. Alors nous allons d'abord commencer par ce premier thème qui semble être central dans le récit. Tout ce qui précède converge là et tout ce qui suit en découle. C'est le texte où Jacob va être confirmé dans son titre, plus que confirmé, il va être nommé et ensuite confirmé une deuxième fois dans son nom d'Israël. Et ensuite nous reviendrons un peu en arrière. En ayant étudié ce verset où Jacob reçoit le nom d'Israël, la structure du verset même nous renverra à cette première étape où Jacob va préparer sa double stratégie, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a deux étapes. Premièrement, tenter la paix, essayer la paix, et lorsqu'il devient évident que la réconciliation est impossible, parce que, comme on dit banalement, il faut être deux pour pouvoir faire la paix, et là encore il s'agit d'Ésaü, nous sommes occupés apparemment avec Ismaël, et c'est un peu compliqué, mais ne confondons pas les deux occurrences. Et par rapport donc à Ésaü, lorsqu'il devient évident que la paix n'est pas possible, alors c'est la lutte. Et au bout de cette lutte, Jacob est déclaré être Israël. Alors nous allons partir de ce premier thème. Je vous donne d'abord deux références. Le premier verset où Jacob se trouvait confirmé, non, je m'excuse, j'ai encore trompé, c'est pas confirmé, se trouvait nommé Israël, c'est le verset 29 du chapitre 32, que nous allons lire d'ailleurs immédiatement. Le verset 29 du chapitre 32 de Bereshit. Alors, le verset dit ceci, « Vayomer Elav » et il lui dit, ce « il », nous verrons immédiatement d'après le contexte, ce « il », cet être qui va nommer Jacob Israël, c'est l'ange protecteur d'Ésaü. Laissez ça en suspens, tout à l'heure nous expliquerons qu'est-ce que c'est l'ange protecteur d'Ésaü. Alors c'est avec lui que Jacob était en lutte, et cet ange finalement ne peut pas vaincre Jacob, il va arriver à le blesser, mais il ne peut pas le vaincre, et il avoue sa défaite dans le verset 29. Vayomer lo, Vayomer, et il dit, Lo Yaakov Yamer od Shimcha, ce n'est plus Jacob que sera dit encore ton nom, qui im Israël, mais Israël. Et c'est la première fois que ce nom d'Israël apparaît dans le récit biblique. Kisarita im Elokim veim Anashim vatuchal, parce que tu as lutté avec, dans le sens de contre, Dieu, avec la divinité plus exactement, Ve'im Anashim, et avec les hommes, Vatuchal, et tu as pu. Et il y a là, comme nous verrons un peu plus en détail, le raccourci de ce qu'a été l'histoire d'Israël, du peuple des descendants de Jacob, à travers l'histoire universelle, et un peu, enfin plus, beaucoup, le jugement qui finalement a été porté par l'histoire universelle sur Israël, que c'est la seule identité humaine qui est capable de se mesurer avec des puissances divines et humaines et d'en être victorieux, enfin, et de le pouvoir, dit le texte, Vatuchal, tu as pu le faire. En effet, dans ce combat, lorsque l'homme lutte contre Dieu, il y a de la part de l'homme le désir d'être vaincu, bien évidemment. Parce que si jamais l'homme arrive à être plus fort que Dieu, imaginez la catastrophe. Mais c'est surtout le sens du combat, de ce combat qu'il faut arriver à comprendre. Et voilà donc le premier verset. Et alors, dans le contexte, et nous allons immédiatement l'étudier, c'est l'ange protecteur d'Ésaü qui reconnaît à Jacob le nom d'Israël. Et comme je vous disais, c'est la première fois que le nom d'Israël apparaît dans le texte, mais comme si c'était quelque chose d'attendu pour nous. A posteriori, nous savons que c'est ce nom qui devait lui être donné. Mais si nous suivons le texte, et c'est d'ailleurs là la méthode la plus saine de la lecture, en oubliant ce qu'il y a après. On ne peut pas comprendre un verset si on se rappelle ce qu'il y a après. Bien entendu, on ne peut pas oublier. Alors il faut faire semblant. C'est-à-dire lire le texte comme si on n'avait pas encore lu la suite. Sinon, on n'arrive pas à comprendre quels sont le sens des rencontres que l'on fait pas à pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la raison pour laquelle on recommence à lire ces textes chaque année, hein, et chaque année on les découvre de façon radicalement nouvelle. On ne peut pas comprendre la cohérence d'une péripétie si on la lit compte tenu de ce qui va se passer après. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, ici, c'est la première fois que le nom d'Israël apparaît, et d'où ce nom d'Israël sort, il semble que ce soit une espèce d'a priori du récit, que c'est ce nom-là qui est enfin attendu et qui est attribué à Jacob. Nous reviendrons plus en détail sur cet aspect de la fête. Voilà donc le premier contexte. Le deuxième se trouve plus loin, au chapitre 35. Au chapitre 35, au verset 10. Chapitre 35, verset 10, et là, c'est Dieu lui-même qui se révèle à... Il y a donc une différence entre l'ange protecteur d'Ésaü, bien entendu, et Dieu lui-même qui se révèle à Jacob, « Vayomavlo Elohim Shimcha Yaakov » et Dieu lui dit, « Ton nom, Jacob, Loikare Shimcha Od Yaakov, ton nom ne sera plus appelé Jacob, qui im Israël Yeshemecha, mais Israël sera ton nom, Vaïkret chez moi Israël, et il nomma son nom Israël. » Et puis, c'est surtout le premier verset que nous allons étudier, je parlerai aussi du second, parce que dans le premier verset, nous avons ces deux niveaux qui nous éclairent sur la portée de ce terme Israël. Je reprends le premier verset, 29 du chapitre 32, qui s'arrête à Imelokim et Imanashim. Il y a deux combats de la part de Jacob, vis-à-vis de forces de puissance divine et vis-à-vis des hommes, à ces deux niveaux-là. Retenez ce principe, parce que ça nous aidera à comprendre l'exégèse des premiers versets de la Sidra, lorsque Jacob rencontre pour la première fois Ésaü après la querelle, après ses 21 ans d'exil, et lui offre 20 ans, et puis il lui offre la paix. Nous aurons là aussi un dialogue à deux niveaux. Alors, il y a encore un autre verset que je me bornerai à vous citer, et je citerai aussi le commentaire de Rashi. Si nous avons le temps tout à l'heure, on pourra y revenir. C'est au milieu de ces deux versets-là, c'est au chapitre 33, verset 20. Lorsque Jacob, après sa rencontre avec Ésaü, a acquis pour son compte les premiers droits de possession des rêves d'Israël en achetant un champ dans la ville de Shechem, près de la ville de Shechem, qui est maintenant la ville de Naplouse. Et vous vous souvenez qu'Abraham avait commencé le processus de droit d'acquisition du pays de la promesse, il y a tout un thème là, le fait que le pays de la promesse doit être acquis, et que nous avons acheté un pays qui était notre héritage. Nous n'avons plus acheté. On n'a jamais vu cela, des héritiers acheter leur héritage. Et de nos jours, c'est le Kappel qui l'a fait. Puisque, comme vous savez, nous avons racheté à prix d'argent. Et c'est pour ça que j'ai dit l'argent. Parce que vous savez, il y a des cours de la bourse où l'argent c'est plus cher que l'or. Et ce pays, d'après un verset de Jérémie, Sardot va caisser fiquement. Et une promesse, un verset de Jérémie, que alors que tout le monde, Jérémie vivait au temps d'une débâcle, alors que tout le monde croyait que tout était perdu, Jérémie, pour consoler ses contemporains, leur a prophétisé, c'était une consolation. Il y aura encore des tractations de Takaot, de cadastre. C'était, dans le contexte de Jérémie, c'était une consolation. Finalement, la prophétie s'est réalisée à la lettre, que les champs devront être rachetés avec de l'argent. Ça, le KKL s'en est chargé. Et puis, c'est son grand sruit. Nous avons Keren Kayemek et Rolamada, mais lui avec Keren Kayemek et Rolamada. Et puis, donc Abraham avait acquis ses droits en achetant Hebron et Jacob en achetant Shechem. Voilà. Vous savez, chaque fois qu'il y a des tractations entre les notables de Hebron et les notables de Shechem, ils sont coincés des deux côtés. Voilà, c'est ou Abraham ou Jacob. Et c'est pas exactement la même position politique, mais de toutes façons, notre dossier est le même. Bien. Et alors là, lorsque Jacob a commencé à être le possesseur de l'Israël, et il a installé une stèle qu'il a consacrée à Dieu, et le verset dit, « Vayatsev sham mizbeach », il a installé là un autel, « Vayikralo », et il l'a nommé « El Eloke Israël », Dieu qui est le Dieu d'Israël, « El Eloke Israël ». Vous entendez cela en hébreu et en français? C'est-à-dire, le pshat est très clair. Et Rashi, d'ailleurs, pendant trois lignes, chez Rashi, c'est très long, explique que le pshat, c'est que Jacob a donné à la consécration de cet autel l'invocation de Dieu devenu le Dieu d'Israël. El Eloke Israël. Et la péripétie est importante, c'est à l'occasion de la première acquisition par droit irréversible du pays de la promesse. Je reviens très, très rapidement en arrière. Et vous vous rappelez de la scène chez Abraham. Abraham avait besoin d'un caveau pour enterrer Sarah, et il était déjà reconnu, nous dit le contexte, comme un prince divin, Nessi Elohim Ata de Kerbenu. Les contemporains étaient, et c'est rare que des contemporains arrivent à comprendre qui est un contemporain, l'ont reconnu comme Abraham, celui qui restera dans l'histoire par la suite. Et alors ils lui ont dit, Abraham arrivait de Ur-Kasdim, il était apparemment étranger.
Alors ils lui ont dit, tu as besoin d'un caveau, pourquoi tu veux acheter un caveau, et qui va te refuser un caveau qui lui appartiendrait en cadeau? Abraham s'entête et il tient à acheter le caveau. Et là il y a un thème très important sur lequel la Gemara revient à plusieurs reprises pour nous indiquer que bien qu'il s'agissait de la terre de la promesse et qu'il aurait été normal qu'on la reçoive en cadeau. Parce qu'après tout, ce que Dieu promet, les hommes peuvent donner en cadeau. Et Abraham a tenu à ce que ce soit acquis. Et de telle sorte que les droits soient irréversibles à quelque niveau de juridiction que ce soit. Dans la juridiction rabbinique, par exemple, lorsqu'on a reçu un cadeau, pour habiliter les droits de possession, on fait ce qu'on appelle un shtar matana. Shtar matana, ça veut dire un contrat de cadeau, comment on dit ? De donation. Mais on peut faire une autre procédure qui s'appelle shtar kinyan, contrat d'acquisition, en payant simplement une pruta, un grouche. Et un grouche, c'est rien par rapport à la valeur du cadeau. Mais juridiquement, un shtar kinyan d'une pruta est beaucoup plus fort qu'un shtar matana. Et vous comprenez la raison formelle qui plonge d'ailleurs dans une signification théologique très importante. C'est toute une théologie différente de croire que ce qui est promis doit être reçu en cadeau, sans effort, sans quelque effort que ce soit. Ça, c'est une théologie goy. Mais que ce qui est promis doit être reçu par un mérite, fût-ce un mérite aussi symbolique qu'une pruta par rapport au cadeau, c'est déjà un tout autre ordre de conception divine. Vous comprenez la différence. Et par conséquent, on apprend que Jacob a acquis Chelkat Asadé et Asher Alpene Shrem, a acquis le champ qui est devant Shrem. La paracha de Shrem, si nous avions le temps, on en parlerait en long et en large. Ceux d'entre vous qui ont déjà entendu ces textes, on se souvient peut-être, on en a parlé un jour. C'est très important de savoir pourquoi c'est à Shrem que cette acquisition s'est faite. Enfin, peut-être on y reviendra. Mais quoi qu'il en soit, là, Jacob commence le culte de reconnaissance du Dieu créateur devenu le Dieu d'Israël. Et ce que je voulais indiquer, c'est le gorem de cela, c'est le fait que Jacob devient le Baal de l'Éretz Israël par cet acte juridique de principe. C'est-à-dire, ne croyez pas que nous avons seulement acheté Hébron avec Abraham et Shrem avec Jacob, nous avons tout acheté, et même un peu plus. On nous doit encore des terres qu'on a déjà payées à l'avant. Ça tiendra. Bien, vous savez, comme... vous savez, les secrets de Dieu lui appartiennent, mais le roi Hussein, en 67, était tellement pieux qu'il a voulu à toute force nous donner Jérusalem. Il y a sa date qui recommence. Il va à toute force nous donner, on ne sait pas quoi. Bien. Nous revenons à notre problème. Ça, c'est le tchat du verset. C'est que Jacob a invoqué Dieu sous le nom de Elokei Israël. Mais Rashi nous dit qu'il y a un midrash. Il y a un midrash. Rabotenu d'Arshul. C'est-à-dire, nos maîtres ont expliqué ce verset, chez Akadosh Baruch Hu, Kerao le Yaakov El, que c'est Dieu qui a nommé Jacob Dieu, divin, disons. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui nomme Jacob El, Dieu. Et je vous redis le verset, Vaikralo El, Elokei Israël. Et ce midrash dit le verset ainsi, que Elokei Israël a appelé à lui Jacob, à Ikralo, à Jacob, elle, qu'il l'a nommé elle. C'est-à-dire que Jacob représente effectivement une force redoutable. Cette force qui, d'après le verset que nous avons déjà appris, est capable de lutter contre les forces divines et les hommes. C'est deux combats différents. Bayochal est qu'il peut faire cette lutte. Et puis d'autre part, voilà maintenant que le texte nous enseigne à travers ce midrash que Jacob s'appelle El, et d'ailleurs c'est très simple. Comment Dieu a nommé Jacob El en le nommant Israël? Par conséquent, c'est le nom de Israël. Il faut que nous comprenions. J'ai dit ça pour un peu atténuer l'audace du midrash. Voilà. Mais finalement, c'est dans le nom d'Israël qu'il faut lire en hébreu, pas en français. En français, ça voudrait dire qu'il sera elle. Mais c'est pas au futur, c'est là, il est déjà dans le futur. Alors, nous allons donc prendre comme premier thème ce thème de la différence de sens entre le nom de Jacob et le nom d'Israël. Et ensuite, ça nous permettra d'entrer plus profondément dans l'exégèse de ce sujet. Bien. Alors, je voudrais partir pour cette étude d'un enseignement du Ben Ishraï, qui était un des grands commentateurs kabbalistes du siècle dernier à Bagdad, et qui a donné l'enseignement suivant. Il dit qu'il y a une différence entre Yaakov et Israël, parce que, et il s'appuie d'ailleurs sur un verset d'Isaïe que je vous citerai tout à l'heure. Dans Israël, on trouve qu'il y a aussi, en plus de ce que représente le nom de Jacob, on trouve aussi qu'il y a ce que représente Moshe et David. C'est-à-dire que Jacob, c'est une des fonctions, une des forces qui vont faire l'être d'Israël. Jacob, c'est l'engendreur du peuple d'Israël. Il y a une sélection d'identité au niveau des pères, des engendreurs. D'Abraham, ça passe à Isaac et non pas à Ishmaël. D'Isaac, ça passe à Jacob et non pas à Ésaü. C'est donc à Jacob qui devient littéralement l'engendreur de cette manière d'être homme qui, dans l'histoire, sera Israël. Mais ça, c'est une des catégories de l'identité d'Israël. Il y a d'autre part Moshe, qui, lorsque les descendants de Jacob, après leur propre pérégrination en Égypte et leur propre histoire, deviendront une nation au moment de la sortie d'Égypte, leur révèle la Torah. Et Moshe fait apparaître une toute autre catégorie que celle du Av, que celle du Père, de l'engendreur. C'est la catégorie, non seulement du prophète, mais littéralement du maître, de celui qui révèle la Torah. Et David, plus tard, est celui, le premier roi d'Israël, qui rendra la Torah de Moshe souveraine dans la société de Jacob. C'est la troisième catégorie. Il est le père, le maître, le roi. Et le Ben Israël nous dit, c'est même préfiguratif de nos problèmes contemporains, Israël, c'est à la fois Jacob, Moïse et David. Et par conséquent, le fait que à notre Jacob, le Jacob dont nous parlons, soit déjà donné, reconnu et destiné ce nom d'Israël, ça signifie qu'il est déjà, à son niveau, investi par ce nom même, investi de ces deux autres fonctions qui authentifient l'identité d'Israël. Enfin, j'en explique, je pense que vous avez déjà saisi. Ces trois forces sont indispensables pour que l'être qui se nomme Israël dans le récit biblique depuis l'origine, c'est-à-dire l'être pour qui Dieu a voulu créer le monde, puisque tous ces récits depuis le premier homme, finalement arrivent en gros plan à se fixer sur une manière d'être homme qui a rejoint ce projet qui se nommait Israël. Vous comprenez ce que je veux dire là? C'est pour Israël que le monde a été créé. Et tout ce que l'on sait à l'origine du récit, c'est qu'il y aura un Israël. Mais qui sera cet Israël? Et voilà que depuis le premier homme, toutes les lignées humaines sont, qu'elles le sachent ou pas, qu'elles le veulent plus ou moins ou pas, sont, et c'est ça leur histoire, et c'est ça l'histoire, sont tendues vers cette exigence de devenir l'être pour qui le monde a été créé, c'est-à-dire de devenir Israël. Puisque c'est le sens de ce terme-là qui, en fin de compte, est reconnu à Jacob. Ça veut dire que parmi toutes les lignées humaines possibles, une a émergé, celle d'Abraham, et tout le reste est, par ce jugement-là, disqualifié. Ensuite, si on veut rejoindre l'élan central, il faut passer par le chemin d'Abraham. Et puis après Abraham, c'est Isaac. Et après Isaac, c'est Jacob, cette sélection a un sens important. Et par conséquent, non seulement on arrive à Jacob, c'est-à-dire l'approximation la plus proche de ce que pourrait être Israël, mais voilà qu'à un certain moment, Dieu lui-même dit « c'est toi Israël ». Et puis, c'est reconnu préalablement par le rival qui aurait voulu l'être à sa place, le frère jumeau, etc., c'est-à-dire Ésaü. Vous voyez ce qui se passe là. Bien. Or, il faut trois conditions, trois forces, trois catégories, comme je dis, trois fonctions. D'abord, celle de l'engendreur. Il faut d'abord fabriquer cette manière d'être homme. Et elle se fabrique au niveau des corps. C'est l'histoire des engendrements qu'on nous raconte et on cherche. Quelle mère pourra donner au père le fils qu'on attend? C'est tout la cohérence du récit. Et il faut d'abord fabriquer le kéli. Hein, et ça, c'est Jacob. Vous voyez? Et puis d'autre part, il faut ensuite insuffler une âme dans ce kéli. Ça, c'est Moïse qui va apporter cette neshama. C'est la Torah. Et puis ensuite, il faut réussir la souveraineté de l'une dans l'autre, de l'une sur l'autre. Et ça, c'est David qui le fera. Puisque c'est David qui est le premier qui a rendu la Torah souveraine en Israël, il faudrait dire, dans le peuple de Jacob. Est-ce que vous comprenez? L'authentification de Jacob en Israël est déjà annoncée à Jacob lui-même, mais elle est réelle grâce à Moïse et à David. Est-ce que c'est bien clair? Tout le monde est bien clair? Et alors le Ben Israël nous montre qu'effectivement, ça se lit dans la gamatria des mots. C'est-à-dire, la valeur numérique d'Israël, c'est combien? 540. Et c'est juste. Et si vous ajoutez Yaakov, Moshe et David, ça fait 541. On peut essayer si vous voulez, mais enfin j'ai vérifié, et puis on ne vérifie pas le Ben Israël. Comment? Bien. Voilà. Or, nous avons un verset d'Isaïe qui nous dit, en prophétisant pour les temps à venir, avant d'arriver au verset, je vais finir cette analyse, si ces trois forces sont disjointes, alors c'est la catastrophe. Si on a d'un côté un peuple qui se reconnaît uniquement dans la catégorie Jacob, c'est-à-dire on a fabriqué l'identité juive, maintenant c'est Léoum Yehoudi, et puis alors on se multiplie par copie plus ou moins conforme, et puis on se fabrique à l'état civil, uniquement l'engendrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Et puis d'un autre côté, enfermé dans les yeshivot, Moïse. Et puis d'un autre côté, à la Knesset, la même Shalah. Trois forces radicalement différentes, Amcha, enfin le peuple dans les mairies, ça c'est Jacob, oui. Puis Moshe, ça c'est les yeshivot. Et David, c'est le Nakhmi. Alors si ces trois forces sont le Pirout, alors c'est ça la catastrophe. Il faut que les trois soient unis pour que ce soit vraiment Israël. C'est ce que signifie cette gamatria. Il y a Yaakov plus Moshe plus David, ensemble ça fait Israël. Mais un David coupé de Moshe et de Jacob, qu'est-ce que ça peut faire? Comment on appelle l'empereur d'Éthiopie?
L'Église.
C'est ça David sans Moïse et Jacob. Il se prend pour le descendant de David, le roi des rois des rois. C'est ça. Il est sympathique, mais enfin, c'est autre chose. Et puis la même chose, une religion juive coupée du peuple juif et de l'État d'Israël, ça fait quoi? Ça fait Sainte Catherine la Valentine. Et c'est dans tout ce
qui... La flambée, hein.
Et puis, un peuple juif... coupé de Moïse et de David, ça peut faire à la rigueur quoi? Comment on appelle cette république soviétique juive? C'est-à-dire quelque chose qui n'arrive même pas à être ridicule. Il n'y a plus. Bien, vous voyez ce que signifie ça? Alors, donc il cite le prophète Isaïe qui dit, en parlant de la fin des temps, « Vehaya heako lemishor ». Vous vous rappelez de ce texte? Vaya Heakov le Mishor. Ça veut dire, et il arrivera, que ce qui est Heakov, ça veut dire tortueux. Et il arrivera que ce qui est tortueux, le Mishor deviendra droit. Alors on compare ces deux notions, Heakov et Mishor, aux deux notions de Yaakov et Israël. Et le terme d'Israël, nous sommes toujours dans ce premier thème, la différence entre Yaakov et Israël. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce qu'apporte de plus le nom d'Israël à l'identité de Jacob? Et le terme de Israël est expliqué par le Midrash. Yachar El, c'est-à-dire la droiture divine. C'est-à-dire, finalement, la tentative a rejoint le modèle et c'est Yachar El, Israël. Vous voyez, c'est Yachar El. Alors, pendant tout le temps de l'histoire, Jacob apparaît, et c'est aussi dans le récit, Jacob apparaît comme, littéralement, étymologiquement d'ailleurs, on l'a nommé ainsi parce qu'il est le talonneur. Avec eux, c'est le talon. Parce qu'il a attrapé Ésaü au talon au moment de la naissance. Vous vous rappelez du récit. Ésaü est sorti le premier, et puis Jacob est sorti en tenant son talon. Et puis, dans toute l'histoire de cette rivalité avec Ésaü, Jacob apparaît, au fond, jusqu'à la fin des temps, comme exactement, enfin, comment dire, le personnage du juif dans la littérature antisémite. Enfin, celui qui emploie des stratégies tortueuses pour arriver on ne sait pas où. Alors, Ésaü, le prophète, Ésaïaou, a déjà prévu cela, en disant, vous verrez bien, Ve'aya, He'akor, le Mishor. Ceux qui étaient apparaissés comme tordus, et nous parlerons très longuement ce soir de cette stratégie de Jacob, qui est la stratégie de la survie d'ailleurs, et dans le monde terrestre, dans le monde de l'existence, l'effort de survie, c'est un tâtonnement perpétuel et qui apparaît comme étant une félonie perpétuelle, contre on ne sait trop quelle vérité d'ailleurs. Et le texte ne se gêne pas, la Torah est imperturbable. Elle nous raconte d'abord que Jacob a pris à Ésaü son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. À qui on peut faire avaler une histoire pareille le plat de lentilles, on peut. Mais bon, on reverra ça tout à l'heure. Mais, non, mais j'insiste. Imaginez le récit biblique, tout sérieux qu'il est. Qu'est-ce qu'il veut nous faire avaler? Que Jacob a obtenu le droit d'aînesse d'Ésaü par un plat de lentilles. Tout le monde avale ça tous les ans. Alors, c'est qu'il y a un petit peu autre chose. Je signalerai simplement, c'est qu'on vient d'apprendre dans le texte précédent qu'Isaac était très riche et qu'il aimait son fils Ésaü. Et imaginez Ésaü revenant de la chasse, comme dit apparemment le texte, et qui a besoin de manger, et il pourrait faire n'importe quel signe, il aurait à ses pieds des dizaines de servantes et des serviteurs lui apportant des moutons rôtis. Mais qu'est-ce qu'il veut d'Afka? Qu'est-ce que faisait Jacob à ce moment-là, en train de se préparer sur son réchaud privé, un petit plat de lentilles privé. Et que c'est d'Afka ça que Ésaü voulait manger, sinon il va mourir. Voilà, c'est invraisemblable comme ça. C'est-à-dire qu'il y a autre chose. Bon, en tout cas, ça apparaît comme tordu. Et puis, deuxièmement, d'autant plus que le texte ne dit pas du tout qu'il était affamé, il dit qu'il était fatigué, cette chose. Et Aïef, et en hébreu, Aïef, surtout dans l'hébreu biblique, Aïef, ça va très loin. Je crois que nous en avons déjà parlé de ça. En fait, Anatana. Et Aïef, ça veut dire fatigué de vivre. Bien sûr, c'est l'élixir de vie. C'est pas pour rien que c'est rouge. Et non, le plat est la... D'abord, il l'antisémite. Non. Dans la terre d'Israël. Ah, il y en a des verts. Ça, c'est les musulmans. Non, mais le texte dit. Ésaü dit, Alaïtenina minha adom ha adom. Il dit, fais-moi manger de ce rouge. Et il s'appelle Edom. Et non, je disais, je crois que je disais à Nathaniel aussi, que dans les recettes de cuisine, on dit qu'il faut préparer un roux.
Oui,
c'est ça. Non, mais c'est pas ça d'ailleurs. C'est que moi, je. Et puis la deuxième fois, et avec l'aide et la complicité de Rivka, voilà que Jacob obtient la bénédiction. Oui, tout ça, c'est Veaya Herakov le Nishot. Bon, si on fait un court-circuit dans l'histoire, c'est le jugement des Goïms sur Israël, comme je vous disais dans la pire littérature antisémite, c'est-à-dire Israël, félon, parjure, tortueux, les Juifs, hein, les Juifs, le Juif de Crapouillon, voilà. Prêtre, et puis quoi encore, parasite, cosmopolite, etc., etc. Bon. Tout ça, c'est dans Veria Herakov Lemichou. Alors que tout cela se révélera comme étant en réalité la droiture, et c'est le nom ultime d'Israël qui s'appelle Yeshurun. Vous retrouvez la racine de Yeshurun. Alors on peut dire que le nom de Israël, c'est le passage entre Yaakov et Yeshurun. C'est le fort qui va de Yaakov à Yeshurun. Nous retrouvons dans notre verset d'ailleurs, et à cause les missions. C'est bien clair. Oui. Ça veut dire droit, la droiture. Yasha. Bien. Et voilà donc le premier thème qui apparaît. Alors, avant de passer immédiatement à l'exégèse des versets du début, là où Jacob va proposer une réconciliation et la paix à Ésaü, nous allons un peu réfléchir à ce premier thème. Voilà donc quel est le problème. Ça veut dire qu'il y a une sorte, tout se passe comme s'il y a une sorte de prototype de l'homme réussi, qui est la vision que Dieu lui-même a eue de son projet lorsqu'il a voulu créer l'homme, et ce prototype-là a le nom d'Israël, a priori. Et puis, il faut que dans l'histoire, par le biais de l'acquisition du mérite de la créature qui se fait elle-même, que dans l'histoire, une manière d'être homme rejoigne ce projet, le réalise. Et c'est cette manière d'être homme-là qui est nommée du nom d'Israël. Est-ce que c'est bien clair? C'est-à-dire, chaque fois que vous avez dans la Bible cette expression qu'un homme a été nommé d'un nom, X, ça veut dire qu'il est destiné à une certaine fonction, à un certain tafkid, à une certaine destination. L'écran d'échelle, ça veut dire destiné à un nom, c'est le nom d'un métier dans le métier d'homme. Appeler quelqu'un Réhouven, ça veut dire voilà ce que tu devrais être. Appeler quelqu'un Yehuda, ça veut dire voilà ce que tu devrais être. Ça veut dire un tafkid. Aujourd'hui, on ne sait plus, on a perdu cette chorma. Consiste à nommer quelqu'un ou quelque chose même. D'ailleurs, c'est la définition de la science. La science pure et simple, ça veut dire connaître le nom d'une chose ou d'un corps. Si je connais le vrai nom d'une chose ou d'un corps, j'en connais les propriétés, j'en ai la science. Vous comprenez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est la même chose. En fait, c'est plus que la même chose même. C'est Yoter Shavé pour l'homme. Le nom de l'homme désigne son essence, son tafkid. Aujourd'hui, on se nomme de façon conventionnelle. D'ailleurs, il y a une démarche qui dit que, bien que de nos jours, on ait perdu cette chokhma de la nomination, littéralement, lorsqu'un père nomme son enfant, il prophétise. Nommer quelqu'un, lui donner un nom, ça veut dire lui donner une destinée, une destination. Et donc, voilà, s'il y a une manière d'être qui est... avant même que l'histoire du monde commence, définie par le projet du Créateur, c'est au niveau d'une transcendance absolue, et il faut que l'histoire qui se fait arrive. Par conséquent, on comprend ces catégories de l'alliance, de la bénédiction avec le Créateur, par là, par où ça passe, passe aussi la bracha et la bénédiction et l'alliance. On pourrait dire aussi l'inverse, c'est que l'alliance et la bénédiction ne sont confirmées que par là où passe cette rencontre entre l'effort historique dans l'existence et le projet. Et il faut dire par conséquent que cet être qui finit par devenir Israël, et nous sommes à l'étape ultime, à l'étape où la descendance d'Abraham devient Jacob, qui après cette rivalité avec Ésaü, cette lutte avec Ésaü est confirmée du nom d'Israël, est donc doué d'une capacité de divination, dans le sens de deviner. Enfin, on est, en français, il y a un piège. Parce que divination, ça veut dire aussi capacité de devenir divin, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais une capacité de deviner ce que Dieu voulait. Et c'est ça qu'on appelle la prophétie. Ça veut dire, tout se passe comme si, à l'étape, chaque fois, à l'étape précédente, on devine là où il faut aller. Et ce n'est que si on y est arrivé que c'est confirmé. Et c'est vraiment une capacité de divination absolue. Savoir quel est le genre d'effort qu'il faut faire pour devenir Israël, à chaque étape, eh bien c'est une invention radicale. C'est-à-dire, à la limite, c'est la formule suivante, il faut réinventer ce que Dieu voulait. Et ce n'est que si on est tombé juste que Dieu se révèle pour dire c'était ça. Voyez Elohim Kito. Et c'est ça, le mystère d'Israël. C'est-à-dire, c'est une manière d'être homme qui devine ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi la Bible, à son niveau, et surtout les Midrashim nous disent, et Rabbi Intel a dit, voilà ce que Dieu a dit. Comment Rabbi Intel peut savoir ce que Dieu a dit? Ben, c'est parce qu'il est Rabbi Intel. Ça veut dire d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai essayé de décrire? Bien. Alors là, nous allons maintenant prendre le problème, et tout à fait au début. Je vais vous lire les premiers versets de la Sidra, vous prenez à partir du début du chapitre 32. 32, à partir du verset 4. Voilà, Vaishlach Yaakov Malachim, Lefanav, Elaïsavachi. Et Jacob a envoyé Malachim des anges. Traduisons d'abord littéralement des envoyés, Malach. Malach, ça veut dire un missionnaire, un chargé de mission. Vous connaissez le mot Melacha, qui veut dire un travail à faire. Melacha, c'est un travail à faire, une mission. Le Malach, c'est le chargé d'une Melacha. Donc, Vaishlach Yaakov Malachim.